L'émission de blues qu'il vous faut, B.B. Queenie Solo & Co. Du blues et du blues. Le rendez-vous du vendredi soir du blues français, mais aussi de partout. Rediffusion le vendredi suivant. Retrouvez-nous en podcast sur radiocalade.fr, sur Facebook, la page B.B. Queenie Solo & Co. Et si vous avez besoin d'un contact, une adresse mail, bbqueenie@free.fr. C'est parti! Bonjour, vous êtes avec B.B. Queenie Solo & Co. pour la 140e émission qui sera consacrée à la découverte, ou pas forcément, de Phil Vermont, un bluesman français d'exception. Il est guitariste, chanteur, compositeur professionnel depuis plus de 20 ans, avec donc une certaine expérience, on va dire. Donc Phil Vermont a joué dans beaucoup de formations, dans des styles très variés, rock, variété, blues, country, metal, jazz fusion et musique festive. Il est originaire de Rouen, le guitariste et chanteur donc nous raconte son parcours, son amour de la guitare et du blues depuis toujours. On va le passer sur le grill. Bonjour Phil.
Bonjour.
Alors, la première question que je vais te poser, c'est comment tu as rencontré la musique ?
Comment j'ai rencontré la musique ? Ben, en fait, ça s'est un peu imposé à moi. J'ai toujours été fasciné par la guitare depuis tout petit.
D'accord.
Quand il y avait des émissions à la télé où il y avait des guitaristes, j'étais vraiment focalisé dessus.
D'accord.
Alors j'ai commencé par la flûte avec parce que en fait j'étais trop petit pour pour faire de la guitare, donc mes parents m'ont dit non, tu vas faire de la flûte avec plutôt.
Ah oui, bah oui.
J'ai fait ça pendant 2 ans. Et en fait ce qui est assez rigolo c'est que j'ai des souvenirs de quand j'étais à la flûte avec, je relevais déjà les musiques de mes dessins animés préférés.
D'accord.
Et, des trucs qui passaient à la radio, voilà, j'étais déjà un peu dans un truc comme ça. Alors évidemment, quand on m'a mis à la guitare, c'était déjà vraiment chouette, vraiment plus chouette.
Ouais,
le morceau qui m'a marqué, c'était vraiment un blues en picking, un truc qui faisait un peu blues du Delta et tout, et ça m'a tout de suite parlé.
Okay.
Voilà, et la révélation, ça a été vraiment en écoutant le titre Money for Nothing de Dire Straits.
Et ben voilà.
Voilà, et là, quand j'ai entendu ce son de guitare électrique, je me suis dit, je sais pas ce que c'est que cet instrument, mais c'est ça que je veux faire.
Eh ben écoute, ça tombe bien, parce qu'on va écouter donc 2 morceaux de tes influences, donc je t'avais demandé évidemment en amont. Justement, Money for Nothing de Dire Straits et de Eric Gales, alors qu'il joue avec Joe Bonamassa dans ce morceau I Want My Crown. Donc on va écouter ces 2 morceaux.
Move on. guitar. I should have learned to play them drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. We could have some. And he's up there, what's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your checks for free. We got to install a microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
I don't know if y'all can hear me real good, but it's time to step in the ring. Me and you, let's get it, Joe.
Alors, on vient donc d'écouter donc deux morceaux des influences donc de Phil Vermont, donc de Dire Straits, Money for Nothing, alors celui-là c'est un quelque chose, et de Eric Gales, I Want My Crown, donc il joue avec Joe Bonamassa. Alors, ton parcours musical est très particulier. Après des études de jazz dans les écoles parisiennes IACP et ARPJ, tu deviens musicien professionnel en 99 avec le groupe La Familia, c'est du rock world festive. Plus une carrière de jazz fusion, tu crées aussi des musiques pour le théâtre, des bandes-sons aussi de spectacles. Est-ce que tu peux nous en parler de tout ça?
Alors, le plus marquant là-dedans, c'était vraiment l'expérience avec La Familia, parce qu'en fait, j'étais pas bien vieux. Mmh. Et, La Familia, c'était un groupe qui tournait beaucoup. On a tourné dans toute l'Europe, on est allé dans plein de pays. C'était vraiment du rock festif un peu à la Mano Negra, les Négresses Vertes, un petit peu dans cette veine-là.
D'accord.
Moi, à ce moment-là, j'étais en plein dans le fameux disque Aldi Meola, Paco de Lucia et
John McLaughlin.
Ça me permettait d'exploiter un peu les trucs que je relevais dans ce groupe-là, parce qu'il y avait une dimension un petit peu flamenco en fait dans certains morceaux du répertoire aussi.
D'accord. Oui.
Et puis voilà, le jazz fusion, en fait, c'est plus issu de comme j'avais fait une école de jazz. Et que j'avais la chance d'avoir des musiciens à Rouen, il y a un vrai vivier au niveau jazz fusion de mecs super talentueux.
D'accord, oui.
Du coup, j'ai eu la chance de travailler avec eux, et du coup j'ai commencé à écrire des morceaux un peu dans ce style-là aussi. Et puis après, pour tout ce qui est musique de spectacle, ça j'en ai pas fait tant que ça, j'en ai fait que quelques-unes. Mm-hmm. Par contre, c'est pareil, c'était vachement enrichissant, parce que du coup c'est vraiment, on se met dans un...
Tu composes
Dans une autre manière de composer, en fait.
Oui, parce qu'effectivement, ça correspond au texte qui existe. Et puis bon, des émotions, des choses, oui, bien sûr. Ah, et c'est super, franchement, bon. Eh bien, justement, on va écouter deux autres morceaux de tes influences, qui sont plutôt blues et blues rock. Alors, l'immense Gary Moore, Cold Day in Hell, et un tout petit morceau de Van Halen qui s'appelle Eruption. Voilà, on écoute.
Way out of line. Escalade.
Ma radio.
D'écouter Gary Moore, Cold Day in Hell et Van Halen et Eruption. Alors apparemment, tu as une anecdote sur Eruption, hein, tu peux nous expliquer?
Oui, tout à fait, avec notamment avec Clément Landais, qui est mon bassiste actuel, avec qui voilà, on a commencé la musique en fait quand on avait 14 ans, on faisait des reprises de Deep Purple et de Led Zeppelin ensemble.
D'accord.
Et, c'est lui qui m'a fait écouter pour la première fois Eruption. Mm-hmm. Et puis, comme on était un peu en mode challenge tous les deux et tout, il m'a dit ah, je suis sûr que tu n'arriveras jamais à jouer ça et tout. Et du coup, à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent de poche, donc j'allais dans les magasins de musique regarder les partitions d'Eruption pour essayer de comprendre comment ils faisaient et tout ça.
D'accord.
Et puis, du coup, je faisais exprès de demander à aller essayer une guitare et puis j'essayais de relever le truc que j'avais lu, mais bout par bout. Et puis, 6 mois plus tard, je suis revenu voir Clément à une répète, je lui ai dit, ça y est, j'ai compris comment ils faisaient et tout. Et puis, je lui ai joué le truc, sûrement pas très bien, hein, parce que j'étais jeune. Mais en tout cas, bon, voilà, il y avait les plans de tapping et puis ça ressemblait, quoi.
Ah bah oui, voilà. C'est marrant en fait, hein, les histoires comme ça pointues là. Mais c'est rigolo d'aller dans les magasins de musique comme ça pour aller voir ce qui se passe. C'est pas bête, hein, finalement. Enfin, maintenant on trouve tout sur Internet.
Il n'y a plus trop de partitions et plus trop de magasins de musique. Donc du coup, c'était.
Eh bah oui.
Mais à l'époque, c'était vraiment des lieux où les musiciens se rencontraient beaucoup.
Eh bah oui.
Et, donc du coup, que ce soit d'ailleurs sur scène, parce qu'à Rouen, on avait il existe toujours d'ailleurs ce magasin-là. Il y a une scène carrément, il y a des concerts tous les samedis après-midi là-bas, donc ça permettait aussi en tant que jeune musicien d'aller voir des mecs plus chevronnés et puis d'aller leur poser 2-3 questions pour savoir comment ils faisaient.
Comment ils faisaient, oui. Bah, en fait, oui, c'est un peu l'apanage des gens de ta génération. La mienne, je suis bien plus âgée. Hein. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été inventées, mais alors dans les plus jeunes, maintenant, ils jouent 2 notes, ça y est, ils savent tout faire, mais c'est effarant, hein, c'est effarant. Mais c'est bien, hein, aussi.
Oui, c'est clair.
Voilà.
Le niveau aujourd'hui des musiciens, des jeunes musiciens, oui, il est terrible, mais en fait, il y a une raison à ça qui est toute simple, c'est que l'accès aux disques est beaucoup plus facile.
Oui.
Sur YouTube, il y a énormément de tutos pour tout, c'est-à-dire que nous, finalement, on était obligés beaucoup d'imaginer comment les mecs faisaient, à part si on avait la chance de les voir en concert et tout.
Eh ben oui, oui.
Et là, ça permet finalement de déverrouiller vachement facilement tout le côté technique
et
du coup de se concentrer plus sur la musique, quoi.
Ah ouais, bah oui, c'est sympa ça. Bah oui, puis en fait, c'est vrai que par contre, moi j'ai trouvé des sites aussi où on peut faire jouer la musique si tu veux qu'on choisit, hein, sur YouTube ou autre, ou des titres particuliers. Et en fait, ça te déroule les partitions avec tous les accords. C'est impressionnant ce truc. Enfin, on en parlera hors antenne. Bon, alors, oui, donc tu officies aussi en tant que chanteur country dans le groupe Texas Line.
Oui, Tout à fait. Ça, alors ça, ça a été une étape un peu importante de ma carrière. Mm-hmm. Parce qu'avant ça, je faisais partie d'un... En fait, après la Familia, il y a eu toute une période où j'ai fait du hard rock metal avec Supercream, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Mm-hmm. Puis, je suis arrivé à un moment de ma carrière où il y a plusieurs projets qui se sont arrêtés. Mmh. Donc je me retrouvais pour la première fois de ma vie potentiellement plus intermittent du spectacle s'il n'y avait pas quelque chose qui passait dans les mois qui venaient.
D'accord.
Et là j'ai eu un coup de fil improbable d'un gars qui me disait: je cherchais un guitariste chanteur pour faire de la country et du rock. Ouais. Est-ce que ça te dirait? Donc je lui ai dit écoute, là il m'explique que il fait des soirées où il faut chanter 4 heures d'affilée, enfin en gros c'est des marathons.
Putain.
Là, je lui dis tu sais, j'ai jamais joué de country et puis je sais pas si je peux chanter 4 heures. Et lui il a parié, en fait on a fait une première répète.
Ouais.
Et il m'a dit si ça va le faire en fait. Il m'a dit toi t'as pas confiance en toi, mais moi j'ai confiance en toi. Et tu vas voir, je suis sûr que dans quelques mois ça le fera nickel. Mm-hmm. Et donc du coup j'ai bossé comme un fou les plans de country au doigt et tout. Je me suis acheté une télécaster, enfin j'ai joué le jeu vraiment à mort pour essayer d'avoir ce plan là, puisque la musique me parlait en plus. En tant justement que fan de Dire Straits, il y avait une filiation avec ce que je connaissais.
Mais tout à fait.
Effectivement, je suis toujours dans ce groupe d'ailleurs. On tourne beaucoup, on fait une trentaine de dates à l'année.
D'accord, c'est bien sympa ça aussi. Bah, du coup, je vais proposer aux auditeurs d'écouter donc deux morceaux de Texas Line, hein, de ton CD Earth and Roots, The Legend of Mr. Blues, et le second c'est Arapaho. Voilà, on écoute.
So sorry, I'm Mr. Blues.
The fault of memories.
It's a legend of Mr. Blues.
Fought like lightning, slap and veal. A concert night in an altitude. A shout of vanity.
It's a story of Mr. Blues.
Departing to Cape Town.
It's a legend of Mr. Blues.
Lived day to day and was having fun. It sound for chances and for love. He knew that one day it would come, but his life was too short for him to dream of. And yet guitar still rings the black notes. Messengers of hope.
It's a story of Mr. Blues.
In a paradise of dawn and sound.
It's a legend of Mr. Blues.
It lives day to day and was having fun. It sung for justice and for love. He knew that one day it would come, but his life was too short for him to dream of. And yet guitar still ring. Messengers of hope.
Mm-hmm.
Ma radio.
Donc on vient d'écouter donc deux extraits de, du CD Earth and Roots donc de ton groupe Texas Line, The Legend of Mr. Blues et le second Arapaho. Alors tu as composé et réalisé les deux premiers albums de Super Scream, c'est du hard rock, qui recevront de très bonnes critiques et très nombreux articles de presse en France et à l'étranger. Alors comment tu composes et tes sujets sont-ils puisés dans la vie de tous les jours ou d'expériences perso ou peut-être d'histoires qu'on t'aurait racontées?
Alors, ça dépend des projets, j'ai envie de te dire. Mm-hmm. Alors déjà sur Super Scream, j'étais pas auteur, hein, j'étais uniquement compositeur.
D'accord.
Par contre, il y a une constante. C'est que j'écris pas avec la guitare, avec aucun instrument de musique. En fait, j'écris avec un papier et un crayon. Pour moi, c'est vraiment le truc super important.
D'accord.
Parce que en fait, sinon, je suis influencé par ce que je joue en fait à la guitare.
Ouais. Mm-hmm.
J'ai pas du tout envie de ça. Je veux vraiment attendre que le truc arrive dans ma tête, puis réfléchir dessus et voilà. Pour ce qui est de l'album de Phil Vermont et celui de Texas Line aussi, où les compos. Les compos ont été faites un peu plus ou moins de la même manière.
Mm-hmm.
À chaque fois, je pars voilà, d'une idée. Enfin, la musique m'arrive, en fait. Je ne sais pas trop de comment ça arrive, en fait. Mais il y a un moment où ça arrive et puis tout de suite, j'ai une idée assez précise de comment je vais arranger le morceau.
D'accord.
Il y a des bribes de paroles aussi avec.
Mmh.
Alors des fois c'est du yaourt et puis des fois c'est un petit peu plus clair et du coup ça induit un petit peu le vers quoi le texte va se tourner.
D'accord.
Il y a beaucoup de comment dire beaucoup de choses assez personnelles en fait, hein, que ce soit dans le disque de Texas Line ou dans le mien.
Mmh.
Voilà, il y a beaucoup d'expériences personnelles qui m'ont retourné, qui m'ont donné de l'émotion et puis du coup j'ai envie de
partager
un texte là-dessus. Mmh. Quoi.
Oui, du coup c'est un partage complet du coup. Ok, c'est super, dis donc. C'est avec Bibi Queenie Solo & Co, je reçois Phil Vermont et je le passe au grill. Il va nous raconter toute sa vie, ou presque. Alors, tu nous présentes un peu tes comparses, comment tu les as rencontrés
Alors, tout à fait, c'est des comparses de longue date, au moins pour la section rythmique, vu que, comme je disais tout à l'heure, Clément Landais, en fait, on se voit ensemble depuis qu'on a 14 ans, il est musicien professionnel aussi.
Mm-hmm.
Lui, il a fait une... Alors, on n'a pas toujours joué ensemble depuis le temps qu'on se connaît, il y a eu des moments où lui est parti à Paris, il a fait pas mal de jazz, il a accompagné aussi... à un moment, il tournait aussi avec Awali, qui est une chanteuse... un peu pop musique du monde.
D'accord. Ouais.
Voilà, on s'est retrouvé aussi des fois en tant que sideman derrière des artistes.
Mm-hmm.
Voilà, on s'est beaucoup croisé, retrouvé, quitté, retrouvé. Et du coup, quand j'ai monté la deuxième équipe de Phil Vermont,
mm-hmm.
pour moi c'était une évidence de l'appeler lui quoi.
Parce que, d'accord.
Quand j'écrivais les arrangements des lignes de basse et tout ça, c'était vraiment son jeu à lui que j'entendais.
Ouais.
Et un peu pareil pour Jean-Michel Talley, qui avec lui on s'est rencontrés, à l'époque on faisait ce qu'on appelle du bal, donc en gros ouais. De la variété, pareil, mm-hmm. on jouait 4 heures. C'était pas des morceaux toujours glorieux d'ailleurs.
Oui, bah ça.
Mais
oui.
Par contre, voilà, c'est ça, c'est un peu.
La danse des canards, par exemple.
Non, c'est pas fait ça, mais.
Non, mais c'est vrai qu'elle est.
Je pense que pour ma crédibilité auprès de tes auditeurs, il vaut mieux que je dise que j'ai joué, parce que franchement, j'en suis pas fier. Je me souviens notamment d'un jour de l'an où tout le monde était là avec les cotillons, les machins et tout. Moi, j'étais là, je faisais la tronche à fond. Pour moi, j'étais en train de défendre juste exactement. De faire l'inverse de ce que je voulais défendre, en fait.
Bah oui, non, mais ça arrive, hein. Tu sais, il faut bien bouffer aussi, hein.
Tout à fait, mais aujourd'hui, si tu veux, depuis justement que je suis rentré dans Texas Line, j'ai la chance de n'avoir plus à faire ce genre de choses.
Oui, de plans.
Ouais. Bon, voilà, de trucs ouais. Un peu alimentaires et tout. Et voilà, moi, c'est pas pour ça que je me suis mis à faire de la musique. Et je crois qu'aujourd'hui, si je devais refaire ça, je préférerais carrément avoir un job à côté et tout. Mais
voilà.
Je veux plus défendre des trucs qui me paraissent pas musicalement...
Oui, défendable, tout à fait, oui. Non, mais c'est vrai que c'est un peu... Moi, j'ai eu un copain comme ça qui faisait partie du groupe de blues, qui était le batteur. Alors lui, c'est pareil, hein, il a tourné avec des gus qui faisaient du baloche, hein, on va appeler ça comme ça. Ah, mais c'était affreux. Alors lui, c'est un fou de rock, c'est un fou de blues. Bon, Il fallait bien manger. Hein, à l'époque, il avait son gamin qui venait de naître. Donc voilà. Mais il a largué assez vite hein, quand même. Parce que franchement, c'était compliqué. Enfin bref, c'est vrai que c'est... Il en faut aussi. Hein. Bon, moi, c'est vrai, quand je vois les affiches dans mon coin, là, je suis dans le Beaujolais, des soirées 80-90. Les gus, ils savent faire que ça. Des tributes ou des trucs. On se demande ce qui s'est passé, là, franchement.
J'ai une théorie là-dessus, on sort peut-être un peu du cadre de ton émission, mais moi je sais ce qui s'est passé. En fait, ça fait des années que les grosses prods, je parle pas des petites boîtes de prod qui essaient de défendre leur truc.
Je
parle des gros, en fait, ils investissent un minimum pour essayer de récupérer un maximum. En fait, passé avec la musique, c'est passé avec beaucoup de choses dans la vie. Et que là, on se retrouve avec des générations de gamins qui ont potentiellement accès à tout sur Internet.
Ouais, mais qui ont
été bercés à Maître Gims et à plein de trucs
complètement.
Que moi, j'estime pas de grande qualité, où je pense à Jules, où il n'y a rien à sauver, quoi. Enfin, c'est fait en deux minutes, il a peut-être un bon flow ou ce genre de truc, mais.
Oui, mais c'est de la soupe, on va appeler ça de la soupe. Hein. C'est vrai que c'est pas
terrible. Voilà, et en fait, ça devient la norme.
Ah bah oui.
Tu fais écouter à un gosse qui a été biberonné à Jules, tu lui fais écouter du Deep Purple ou du Led Zeppelin, ou un Stevie Ray Vaughan, il va dire, mais c'est quoi ça, je comprends pas. Et puis très vite, il va passer à autre chose, en fait, parce qu'il y a une complexité là-dedans, et une personnalité là-dedans qui est voilà, c'est vraiment un autre son et une autre manière de concevoir la liberté musicale.
Tout à fait.
Voilà. Le recevoir aujourd'hui, ceux qui n'ont pas des parents qui ont écouté ça.
Voilà. C'est clair, hein, c'est clair. Enfin bon, voilà. Vous avez écouté, bien sûr, Bibi Queenie Solo & Co. avec Phil Vermont. Et comme on est bavards l'un et l'autre, on va intercaler une petite musique qui vient de son CD qui va sortir donc le 8 novembre. On en parle juste après. Et le titre, c'est The Vaders. Pas pour ceux qui vont à la pêche. Hein. On écoute. We'll be right back. Alors, donc, tu dois sortir un album le 8 novembre qui se nomme Time Has Come. Alors, raconte-nous comment est né cet album et aussi qui l'a produit.
Alors, en fait, ce groupe est né, pas sur un manant, je l'ai entendu, mais presque. C'est-à-dire qu'à la base, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un batteur avec qui je jouais pas régulièrement, qui m'a appelé, qui m'a dit « Ouais, j'ai un plan sur le Havre, il faudrait qu'on fasse du rock 70s, je crois que c'est ça que tu fais un petit peu et tout. Mm-hmm. » Donc du coup, j'ai dit oui, et puis du coup, j'ai ramené le bassiste de Texas Line, Jean-Marc, dans l'histoire, et on est allé faire ce plan pour la mairie du Havre, qui s'est très bien passé. Donc du coup, ils nous en ont redonné deux autres, et en fait, comme il n'y avait que moi qui avait des photos de presse et des choses comme ça, du coup, on a appelé ça Phil Vermont. Alors, à l'époque, Phil Vermont et les Electric Wizards.
Ouais.
Et puis, comme ça se passait vraiment bien avec les gens, du coup, le gars qui nous avait mis là-bas nous a dit « Ouais, je vais vous filer une première partie au Magic Mirror, première partie de Timber Rose. »
D'accord.
Et donc, du coup, on s'est retrouvés au bout de quatre concerts sur une belle scène, sympa, avec 1000 personnes devant.
Ça, c'est génial.
Ça, c'était un peu le baptême du feu.
Ouais.
Et ça a fonctionné au-delà de toute espérance. En plus, au Havre, ils sont vraiment friands de ce genre de musique, donc du coup, ça a pris tout de suite. Mmh. Et on a vraiment mis le feu. Donc là, du coup, moi, je me suis dit, je veux pas faire... À l'époque, c'était des reprises. Et, sauf que moi, je voulais pas que Phil Vermont, mon nom soit associé à juste des reprises. Mmh. Donc j'ai commencé à écrire des chansons. Les premières, quoi, c'est qui, que tu vas diffuser tout à l'heure, Time Has Come, voilà. Mmh. Et là, Covid.
Donc, ah bah oui,
du coup,
ça.
Le projet a été à l'arrêt. En plus, on avait trouvé un booker et tout pour nous trouver des dates. Mm-hmm. En fait, le projet a été à l'arrêt quasiment pendant un an et demi.
Oui, bah oui.
Donc du coup, ce faisant, Jean-Marc, il m'a dit, il était dans une période un peu compliquée, puis il approchait à la retraite, il m'a dit, tu ferais mieux de trouver quelqu'un d'autre. Greg Ferrier, qui était le premier batteur, lui, il a été embauché dans un autre groupe, et puis il avait besoin de faire des dates à fond et tout, donc pareil, il a lâché l'affaire.
D'accord.
Il ne passait plus rien. Et là, moi, je me suis dit, j'en profite, en fait, j'appelle mes vieux potes avec qui je sais que, c'est la musique qui circule de manière hyper fluide.
Ouais,
donc, Jean-Michel Talley et Clément. Mm-hmm. Et puis là, ça a été carrément... Enfin, voilà, c'était...
La révélation, on va dire.
C'était ce qu'il fallait pour faire le truc. Et donc, cette seconde mouture, notre premier concert, c'était au Souboc.
Oui, à Coville,
Voilà, avec Marc Loison et tout ça, partie de Neil Black.
Et voilà.
Et il se trouve aussi que Jean-Michel Talley, il a été le batteur de Neil Black pendant plusieurs années.
Tout à fait.
Donc du coup, eux se connaissaient bien. Donc Jean-Michel m'a présenté Neil. Voilà, on s'est parlé pas tant que ça. Puis après, moi, je vais faire mon set. Et ce que je savais pas, c'est que Neil était en train d'écouter le set, en fait. Et en sortant de scène, il m'a dit « Ouais, faut qu'on se parle après. » Donc, du coup, moi, je regarde son set, il me propose de venir taper le bœuf, j'y vais. Mm-hmm. Et en sortant de son concert, il m'a dit « Bah écoute, si tu envisages de faire un album, ça pourrait être un temps qu'on travaille ensemble. J'aimerais bien travailler avec toi dessus. »
C'est vraiment un super musicien, un super producteur. Et puis un gars tellement riche d'un tas de choses, d'expériences et de... Enfin, franchement, moi, ça fait depuis 2006 que je le connais, même avant 2005. C'est vrai que, heureusement qu'il nous a mis en relation, d'ailleurs, parce que je trouve ça génial.
Moi, je te dirais que du bien, de toute façon, de Neil, parce que il a vraiment veillé comme un ange gardien sur le projet à un point que moi j'aurais jamais imaginé, tu vois, vraiment. Il a vraiment été super investi dans le truc et tout, parce que comme moi je suis je travaille beaucoup et puis je suis très pointilleux et tout ça, donc
vous êtes bien retrouvé en fait.
Forcément, facile à supporter pour les gens autour. Mm-hmm. Et Neil, des fois, il recevait 3 messages dans la journée. Bon, voilà, et il pourrait, vu son statut, il me saoule un peu et tout. Mais en fait, pas du tout, il a toujours été là.
Ah oui, non, il est toujours allé, toi, oui. C'est vrai.
C'est un super gars et je pourrais jamais le remercier assez de tout ce qu'il a fait pour moi sur ce disque, quoi.
Voilà, écoute, du coup, on va écouter des extraits de cet album, donc Sexy, 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 et puis Sad Story of a Blind Man.
Galade. Ma radio.
Where to go? wants to blow my mind.
Sexy, sexy, sexy. Baby, you shoot me all night long. Sexy, sexy, sexy. Baby, you shoot me all night long. When I see your body, you know it always turns me on. The night we spent together was so hot and so high. That will do.
Sexy, sexy, sexy. Baby, you shoot me all night long. Sexy, sexy, sexy. Baby, you shoot me all night long. When I see your body, you know it always turns me on.
That I will never ever see again.
is my world now. Memories of pictures fill my mind. Countryside for lights and sunrises, I'm forgotten and left behind. The night goes on forever, and you may hear a lonely cry out there in the distance on a cold and rainy night. Yeah, I know I'll never see you again. It's the sad story, the sad story. It's the sad story of blind man, blind man.
Sexy, 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 Sad Story of a Blind Man, donc de cet album qui va sortir le 8 novembre chez Dixie Frogs en plus, hein, donc produit par Neil Black, comme on vient de dire, et le titre de l'album, c'est Time Has Come. Alors, quels sont tes projets, des concerts, des festivals?
Bah oui, là je suis sur la promotion de l'album. Mm-hmm. Donc je suis en train de finir de réaliser là un making of de l'album et une série d'interviews, notamment une interview de Neil qui parle un peu du projet, de comment on a travaillé et tout ça. Mm-hmm. Qui vont arriver sur YouTube et tout ça. Après dans les concerts importants, on va dire, là je suis programmé au festival Blues de Traverse pour l'ouverture, en première partie de Bernard Allison.
Oh bah ça c'est joli, dis donc.
Ouais. Voilà, ça va être une belle date, et du coup on va filmer et enregistrer le live de cette date-là. Mm-hmm. Puis j'ai ma sortie d'album le 8 novembre à la Gare aux Musiques à Louviers.
D'accord.
Donc là cette fois-ci en sextette avec l'artillerie lourde, la section de cuivre, l'harmoniciste et tout ça.
D'accord.
Voilà, concert qui sera aussi filmé et enregistré en live. Et puis bah pour le reste, je peux Il y a une dernière date prévue le 31 janvier au Clos des Fées avec Neil Black, okay. Donc en guest. Et puis il y a d'autres choses qui sont sur le feu, mais pour l'instant je ne peux pas en parler parce qu'il n'y a rien de signé.
De toute façon, les gens peuvent te suivre sur filvermont.com, c'est ça, hein?
Alors tout à fait, il y a ma page Facebook aussi. Voilà, je suis toujours content de rencontrer les gens et de discuter avec eux. Tout à fait, filvermont.com.
Ok, ben en tout cas, merci infiniment pour ta patience et d'avoir répondu à mes questions. Alors en tout cas, tu ne départs vraiment pas dans le paysage blues actuel, et au contraire, je suis sûre que tu es promis à une brillante carrière de ce côté-là, que je te souhaite longue et pleine de belles rencontres et de succès. Merci encore. Voilà.
Merci à toi.
Je t'en prie, à bientôt.
À bientôt.
Voilà, l'émission est terminée. Rendez-vous donc vendredi prochain pour une rediffusion et la semaine après, une nouvelle qui suivra. Je vous laisse avec Benoît Blueboy avec Descendre au café.
Oh, quand je me suis réveillé, j'étais encore bourré. Ça vient même m'arrêter de picoler. Descendre au café. Un tour au café. Je mets trois ou quatre pouces, ça va mieux aller. Oh, j'aime bien mieux de m'arrêter avant de piquer du nez. Dans ma chambre, bien plancher qui commence déjà à tanguer. Descends au café. Un tour au café. Je mets trois ou quatre pouces, ça va mieux aller. Bye.